Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
13h16, on va retrouver maintenant toutes vos initiatives et vos créations partout en France. Aujourd'hui, tout d'abord, on suit le défi d'un soigneur du zoo de la Flèche, un zoo bien connu dans une émission de France 4, une saison au zoo. Ce soigneur veut relier la Flèche à Riga, en Lettonie, pour récolter des dons pour la sauvegarde du condor des Andes, le plus grand rapace au monde.
Vous voulez savoir pourquoi il va pédaler jusqu'à Riga, peut-être?
Oui, avec plaisir.
Eh bien, écoutez bien, réponse tout à l'heure.
Ensuite, on va s'intéresser à de nombreuses tombes qui ont été retrouvées autour de la basilique Saint-Rémy à Reims lors de fouilles. Ces sépultures s'échelonnent sur plus de 1000 ans.
On savait leur présence depuis quelque temps après des repérages, mais on est surpris par l'état de conservation des sépultures et notamment de certains objets qui accompagnent les dépouilles.
Et enfin, on passe dans le Jura pour déguster de la limonade Elixia, l'une des plus anciennes boissons de France, mais alors qui revient vraiment en force, notamment à l'étranger. On va découvrir les secrets de fabrication de cette marque jurassienne.
C'est vrai que c'est très ancien, la limonade. D'ailleurs, on disait un limonadier pour celui qui vendait des boissons, alors qu'il vendait aussi de la grenadine ou de la bière.
Vous avez bien raison. Belle journée à tous, une heure en France, c'est jusqu'à 14h.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Et voilà une initiative au goût de défi dans une heure en France. À mon avis, vous êtes nombreux à suivre l'émission de France 4, une saison au zoo, donc notre aventurier, vous le connaissez sans doute. Pour tout vous dire, quand on a découvert dans l'équipe d'une heure en France que ce salarié du zoo de la Flèche, dans la Sarthe, allait faire 2600 km à vélo jusqu'à Riga en Lettonie pour sauver un oiseau d'Amérique du Sud, on s'est dit, peut-être qu'on n'a pas compris. Eh bien si, on avait bien compris, c'est l'opération Biking for Nature.
Associer un effort sportif à une cause animale, cela mérite quand même un détour par le zoo de la Flèche. Pourquoi Riga? Pourquoi le condor des Andes?
Mais vous allez avoir des réponses, Denis, à vos questions avec le principal intéressé. Bonjour Mathieu Fouché.
Bonjour.
Eh bien allons-y, si vous attirez notre attention sur le condor des Andes, c'est qu'il y a un problème.
Tout à fait, effectivement. Le condor des Andes est actuellement menacé en danger d'extinction dû à de nombreuses chasses illégales et à des empoisonnements par le plomb au niveau des carcasses. Donc, aujourd'hui, en Équateur, il en reste une centaine et pour le coup, c'est urgent de faire quelque chose.
Mathieu Fouché, quand est-ce que vous avez été alerté par le sort de ces oiseaux ?
Alors, j'ai été alerté depuis bien longtemps, puisque finalement, les équipes d'une saison zoo sont parties en Équateur il y a quelques mois pour une mission. Là-bas concernant ces animaux et pour le coup la responsable Barbara, responsable du secteur oiseau ici au parc, m'en a informé à son retour et m'a dit qu'il fallait faire quelque chose.
C'est un très grand rapace charognard, on peut le décrire un peu mieux que ça.
Donc, c'est un rapace qui est extrêmement grand, effectivement, plus de 3,20 m d'envergure avec un poids allant jusqu'à 15 kg. Il est reconnaissable par des bandes, son cou blanc et des bandes blanches sur les ailes. C'est un animal qui prend beaucoup de place dans les airs et qui aujourd'hui est très très menacé. Donc pour le coup, c'est aussi à nous de le sauver, quoi.
Mathieu Fouché, avec les dons que vous allez récolter, qu'est-ce que vous allez faire avec les condors? Vous allez leur installer des GPS?
Oui, alors tout simplement, il y a une association andéenne de Condor Work Group qui a été créée en 2009 avec le ministère de l'Environnement en Équateur pour sauver cette espèce. Et grâce à ces dons, ça nous permet de financer des capteurs GPS pour les intégrer aux oiseaux qui sont récupérés et de voir leur évolution au sein de leur environnement, de manière à voir comment ils évoluent, où ils se posent, à quel endroit il y a un capteur de mortalité également qui est intégré, à quel endroit ils pourraient être tués, où ils s'empoisonnent, où ils sont tués par des chasses illégales. Et l'idée, c'est d'éduquer les populations locales en Équateur pour leur montrer que cet oiseau est vraiment en danger d'extinction et qu'il est nécessaire absolument de prendre des mesures pour le sauvegarder.
On a mis sur francebleu.fr le site internet de la cagnotte en ligne et puis la page Facebook du périple que vous allez bientôt démarrer. 2600 km pour aller à Riga. On s'est demandé un sacré moment pourquoi est-ce que vous alliez en Lettonie à Riga pour sauver le condor des Andes.
Ouais. Effectivement, on peut se poser la question, pourquoi Riga? Alors, en fait, tout simplement, la destination, c'est à l'origine une idée, une destination personnelle. Une de mes sœurs réside là-bas et l'idée, c'était de pouvoir associer un effort sportif à une cause animale.
Et si votre sœur habitait à Pékin?
Ouais, ça aurait été plus long, ouais, effectivement. Ça aurait été sur une durée plus longue. Non, mais effectivement, je me suis dit pourquoi pas associer à ce moment-là donc ces 2600 km, puisque c'est quand même des kilomètres, enfin, c'est quand même un trajet assez conséquent sur le nombre de jours qui m'est imparti. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de pouvoir associer cet effort sportif à une cause animale, à un problème de, enfin, une cause de conservation et de biodiversité. Et c'est pour ça, Riga. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de condors des Andes à Riga.
Il me semblait bien.
Mathieu Fouché, comment va se dérouler votre périple au quotidien ?
Eh bien, tout simplement, le périple au quotidien, ça va être essayer, en tout cas tenter d'effectuer entre 150 à 200 km par jour de vélo, donc à peu près 10 heures de vélo.
Il faut être sportif quand même, hein ?
Il faut être sportif, ouais, effectivement, il faut aussi, il va y avoir des moments difficiles, comme tout événement sportif, hein, c'est pas tout simple, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, après il y a la pratique. Le quotidien, c'est l'idée aussi, c'est de communiquer sur mon trajet au travers de ma page Facebook et au travers du parc, au travers du Facebook du Zoo de la Flèche également, de manière aussi à montrer tout simplement le périple pour traverser tous les pics que je vais traverser finalement.
Donc, ouais. Vous êtes salarié du Zoo de la Flèche, vous vous sentez soutenu dans votre projet par le Zoo de la Sarthe?
Complètement. Alors en fait, c'est vraiment un projet. C'est moi effectivement qui suis cycliste de l'événement, mais finalement derrière tout ça, il y a Cyril le vétérinaire qui lui fait tout simplement la coordination entre le groupe Andean Condor en Équateur et Zoo de la Flèche. C'est lui qui amène tous les projets de conservation et de biodiversité au sein du parc. Ensuite, il y a le président Stéphane Lacuna, donc président du Zoo de la Flèche, qui est lui effectivement à 100% dans le projet, qui va m'accompagner la première étape, à titre d'information. et puis Barbara, responsable secteur oiseau, et puis l'ensemble de mes collègues qui sont effectivement à fond dans le projet, parce que l'idée aussi, c'est que ici au Zoo de la Flèche, on a aussi ce côté un peu sportif, puisque chaque année, on organise des épreuves sportives au sein du parc au mois de septembre. Le zoathlon, que l'on appelle, on appelle cet événement le zoathlon. Et en fait, au travers du sport, etc., tout le monde est touché par le projet que j'entreprends ici.
Mais ce qui est génial, Mathieu, c'est que quand vous parlez de vos collègues, en fait, nous aussi, on les connaît, parce qu'on les voit à la télé. Donc ça, c'est super.
Oui. On parle de
Barbara, Stéphane, on voit très bien qui c'est. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour cette aventure, pour ce périple. Merci d'être venu nous en parler dans une heure en France aujourd'hui, Mathieu Fouché.
Bah, merci à vous, merci également.
Et on a mis tous les liens sur FranceBleu.fr.
Une heure en France, Denis Farrot, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
On parle patrimoine maintenant dans Une heure en France. Nous sommes à Reims, là où se dresse la magnifique basilique Saint-Rémy, là où Clovis a été baptisé, bâtiment classé monument historique depuis 1840. En mars, au mois de mars, des fouilles préalables ont commencé pour réaménager le parvis de la basilique. Et c'est là que les équipes ont découvert des sépultures.
Oui, et phénomène assez rare, elles sont dans un très bon état de conservation.
On en parle avec la responsable des opérations au service archéologie du Grand Reims. Bonjour Mathilde Arnaud.
Bonjour.
Est-ce qu'on s'attendait à trouver des tombes à cet emplacement précis ?
Oui, bien sûr. On s'y attendait tout simplement parce que c'est un édifice religieux très polarisant, très prestigieux, et que c'est de toute façon commun d'enterrer durant l'époque médiévale les morts à proximité des églises, d'une part. Et d'autre part, parce qu'avant la fouille archéologique, on avait eu une première étape qui s'appelle un diagnostic archéologique, où en fait on avait testé le sous-sol avec une pelle mécanique pour vérifier la présence des vestiges et surtout estimer leur densité.
Alors on savait qu'il y avait des sépultures à cet endroit-là. La surprise, c'est leur état de conservation.
Oui, alors en fait, elles sont pas. L'état de conservation est quand même assez inégal. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des niveaux qui sont directement sous le sol actuel et qui sont très endommagés. Mmh. En revanche, on a également de très nombreuses sépultures qui sont enfouies très profondément dans le sol et qui, elles, pour le coup, sont bien conservées.
Pour qu'on ait une idée, Mathilde Arnaud, il y a combien de tombes qui ont été retrouvées ?
Alors, nous, à l'issue du diagnostic, on a estimé à 600 sépultures attendues. Et là, pour le moment, sachant qu'on n'a que la moitié de la surface qui est actuellement en cours de fouille, on en est déjà à 200 sépultures.
Donc c'était l'emplacement d'un cimetière ?
De plusieurs cimetières, oui, tout à fait. En fait, c'est un secteur de la ville de Reims qui est connu pour accueillir les premiers édifices paléochrétiens, que l'on connaît du coup par les sources historiques, que l'on connaît moins par les fouilles archéologiques. Donc c'est pour nous une belle occasion justement de comprendre comment fonctionnent les différents cimetières qui ont pu s'implanter dans ces zones-là.
Oui, des cimetières en fait implantés avant l'édification de la basilique Saint-Rémy, si je ne me trompe pas dans les dates.
En partie, puisque comme je vous dis, c'est le secteur au sein duquel les premiers édifices sont implantés. Et justement, nous, notre travail, ça va être aussi de voir comment rattacher les ensembles funéraires à tel ou tel édifice encore en élévation ou aujourd'hui disparu.
Oui, Mathilde Arnaud, ce qui est rare, c'est qu'elles s'échelonnent sur des centaines d'années, ces sépultures.
C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est à la fois la surface, puisqu'on est quand même sur plus de 4 mm², ce qui est important, et sur une période chronologique qui est aussi potentiellement importante, puisqu'on estime à un début d'occupation funéraire qui peut dater du 5e siècle jusqu'au 18e siècle.
Alors concrètement, on retrouve des os et on essaye de reconstituer des squelettes, c'est ça ?
Non, pas tout à fait. Alors ce qu'on retrouve, en fait, c'est effectivement des sépultures qui sont associées à différentes architectures. Donc ça peut être des sarcophages, ça peut être des cercueils, ça peut être encore autre chose, des aménagements de pierre. Ça peut être aussi, ce qui est une grosse partie d'ailleurs de nos sépultures, simplement des inhumations dans des fosses simples. Ensuite, donc ça c'est un premier travail de répertorier les architectures associées aux sépultures. Puis les anthropologues ensuite étudient le squelette en lui-même pour obtenir des informations biologiques, âge, sexe, mais aussi sanitaires.
Et est-ce que ça a donné des résultats ? Est-ce qu'on a des indices sur certaines de ces personnes ? Est-ce que c'était une classe sociale aisée pour avoir le droit d'être enterrée et d'avoir une sépulture ?
Alors pour l'instant, on est à l'étape de fouille, donc les indices, on les a pas, ça c'est vraiment dans une deuxième étape. Après, on a quand même déjà maintenant des éléments de réflexion, notamment du fait de la coexistence de plusieurs architectures. Donc forcément, des sarcophages, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et les sépultures en pleine fosse, à contrario, forcément, c'est plus associé à une population moins aisée.
Les fouilles qui ont commencé il y a quelques mois doivent s'achever à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Oui.
Est-ce que c'est stressant ? Est-ce que vous vous dites parfois, est-ce qu'on aura tout découvert d'ici là avant que les pelleteuses arrivent ?
Oui, c'est stressant. Oui, après, c'est notre quotidien. On a l'habitude d'intervenir comme ça et on fait en sorte de ne pas être dans ce cas de figure, justement, en ajustant nos méthodologies au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de nos découvertes.
Mathilde Arnaud, une fois que ces fouilles ont été mises au jour, qu'est-ce qu'on en fait une fois que les découvertes ont été exécutées, que le chantier est terminé ?
Les données recueillies, les os ?
Oui, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On se sépare dans des musées, c'est...
Alors, en fait, on les emmène avec nous dans nos locaux pour que les spécialistes puissent les étudier dans un premier temps.
Oui.
Puis ensuite, ils sont stockés dans des dépôts de l'État.
Ça sera peut-être l'étape d'après. Oui. L'interview dans un an, Frédéric. Qu'est-ce qu'on a fait de...
Avec plaisir.
Merci Mathilde Arnaud pour ces précisions. C'était passionnant. Et puis pourquoi pas effectivement se rappeler à la fin du chantier.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Et nous replongeons dans notre patrimoine avec l'une des plus anciennes boissons de France, la limonade, qui est mise à l'honneur dans le dernier numéro de Cuisine et Vins de France, le numéro de juin-juillet, avec un beau plat de riz à l'espagnol en couverture.
C'est une boisson qui rappelle l'enfance, la limonade nature ou les diabolomandes dont on parlait à l'instant, mais pas seulement. Il y a aussi le panaché, un panaché bien blanc, s'il vous plaît, monsieur, avec beaucoup de limonade.
On a retrouvé la plus ancienne limonaderie de France dans le Jura. Elle existe depuis 1856. Le gérant de la marque Elixia est avec nous. Bonjour Hugo Sublet.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a changé depuis le 19e siècle dans la composition de la limonade ou la bouteille
ou le bouchon.
Eh bien écoutez, pas grand-chose en fait. Elixia, c'est la plus ancienne limonaderie de France depuis 1856. Et on utilise toujours les mêmes recettes. On a toujours les mêmes fournisseurs, par exemple, d'essence de citron qui se trouve dans le sud de la France. Et on travaille toujours avec des bouteilles en verre. Et puis, les fameux bouchons mécaniques. Oui, effectivement.
Et l'eau de source, elle vient du Jura?
Voilà, exactement, des montagnes du Jura. C'est une source qui alimente la petite ville où nous sommes de Champagnole. Et on a une très très bonne qualité d'eau et on travaille qu'avec des ingrédients naturels, du creux de canne. La particularité de nos limonades, c'est que nous, on les sucre très très peu.
Ah.
Vous savez, on a la petite polémique en ce moment des boissons sucrées, etc., oui. Industrielles. Eh bien nous, on a toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on sucre très très peu nos limonades. Il y a que 70 grammes de sucre par litre, en fait, contrairement à tous les toffs, les sodas industriels où on atteint les sommets.
La vôtre rafraîchit, mais n'est pas trop sucrée.
Mais vous voulez dire que vous avez baissé le taux de sucre avec la période où on nous conseille de moins manger de sucre?
Non, pas du tout. Nous, ça fait des années. On propose une limonade qui est peu sucrée. Il n'y a que 70 grammes de sucre par litre, alors que dans les limonades industrielles, il y a entre 100 et 120 grammes de sucre par litre.
D'accord. Et à qui s'appelait aujourd'hui la limonade? Les Français, à l'étranger, un peu partout?
Eh ben écoutez, on s'appelait en France, et s'appelait de plus en plus en France, en fait, parce que on est sur le marché nous sommes sur le marché de ce qu'on appelle les boissons alternatives. C'est-à-dire la nouvelle tendance de consommation locale, artisanale, qualitative. La tendance du consommateur qui détourne un petit peu les produits de mass market, mm-hmm. De grandes marques que tout le monde connaît, de boissons.
Oui.
Je les nommerai pas.
Mais
on est sur ce marché-là. Alors ça plaît de plus en plus. Et ben aussi à la jeune génération, hein, ce qu'on a les générations des milléniums, hein, les tout jeunes. Et qui cherchent des produits, des boissons authentiques. Voilà.
Alors vous parlez d'authenticité. Vous faites toujours de la limonade classique, mais j'ai quand même vu sur votre site, vous faites de la limonade au chocolat.
Il y a plein d'autres choses, hein. Myrtille, fraise des bois, mirabelle.
Oui, voilà.
Ça plaît ça?
Exactement. On a une grosse clientèle pour ces limonades parfumées. On travaille qu'avec des extraits naturels de fruits de plantes, des colorations naturelles. On a fraise des bois, sapin, myrtille, mirabelle, mangue, passion, une gamme de limonades biologiques qui est très tendance aussi.
Hugo, qu'on parle de celle avec les paillettes d'or quand même.
Oui, alors avec les paillettes
d'or. Elle m'a séduite celle-là.
Hein. Oui, là c'est un petit peu un produit un petit peu original. C'est parce qu'on exporte beaucoup en fait. Vous parliez de la limonade, est-ce que ça plaît à l'export? Mais la limonade française en fait plaît beaucoup aux étrangers. Nous, on exporte plus de 50% de la production à l'étranger, dans une quarantaine de pays. Et c'est le côté gourmet de la boisson un petit peu haut de gamme, de la boisson qualitative, qui plaît beaucoup aux étrangers.
Cela dit, j'ai vu une vidéo parce que vous commercialisez avec un resto chic à Shanghai, et la gérante disait, celle qui parle la mieux quand même, c'est l'authentique, la française, la naturelle, parce qu'elle rappelle le terroir, puis elle a un joli nom, limonade.
Voilà, exactement. Oui, la limonade, ce qu'on appelle la limonade nature, originale, c'est la base citronnée. Voilà. C'est celle qu'on continue à vendre, c'est un des best-sellers, hein, évidemment.
Parce que le bouchon, la bouteille en verre, tout cela, c'est un petit peu de patrimoine à l'export de l'authentique que vous proposez. C'est un peu la France en bouteille.
Voilà, exactement. C'est c'est vraiment typique de la France, cette bouteille avec la mécanique pour de la limonade. C'est vrai qu'à l'étranger, ils sont très étonnés de voir, eux sont très habitués aux boissons industrielles de mass market. Ils connaissent que ça en fait. Et le côté artisanal, le côté gourmet, le côté de la présentation de cette boisson artisanale leur plaît beaucoup.
Et puis ils nous imaginent toujours avec le béret et la baguette de pain sous le bras.
Voilà, exactement.
Mine de rien, Frédéric vient de vous trouver un nouveau slogan, la limonade Elixia, la France en bouteille.
Voilà.
Eh ben voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'elle a un grand succès, notamment sur l'Asie et l'Amérique centrale.
N'écoutez pas Denis, des bêtises. Merci infiniment en tout cas de nous avoir parlé de votre limonade. Ça donne envie d'essayer, ça s'appelle Elixia, c'est dans le Jura, c'est authentique.
C'est à Champagnole entre Long, Le Saunier et Pontarlier. La limonade est à retrouver dans le numéro juin-juillet de Cuisine et Vins de France. Avec aussi la leçon de Mercotte pour réussir ses macarons ou les 10 recettes de l'été avec des aubergines.
Merci Hugo Sublet.
Merci, bonne journée.
Bonne journée dans le Jura, au revoir. France Bleu. Une heure en France se termine. Denis, on a commencé notre voyage aujourd'hui dans les Andes, avec le condor des Andes.
Un soigneur du zoo de la Flèche part à Riga, en Lettonie, pour sauver le condor des Andes. Oui, je sais, il faut suivre.
Allez sur francebleu.fr si vous voulez en savoir plus. On a dégusté de la limonade aussi, ça m'a bien plu ça dans le Jura.
Je reprendrai bien un Diabolo citron pour varier un peu les plaisirs avec une limonade peu sucrée du Jura.
Et on a évoqué des fouilles archéologiques à la basilique Saint-Rémy à Reims.
Là où, comme vous aimez le rappeler, Clovis a été baptisé, Frédéric.
J'allais le dire, c'est bien simple. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez nous réécouter en podcast sur francebleu.fr. On est là demain, si tout va bien, Denis.
Demain, on découvre une forêt d'exception dans l'Allier, la forêt de Troncet.
Et ça va être un bon moment. À demain.
À demain.